Alors, bonjour à tous. Alors, comme plusieurs d'entre nous le savent, et comme ça sera indiqué aussi par la suite tout à l'heure lors des annonces, nous aurons notre moment d'Assemblée Générale dimanche prochain. Donc, je ne fais pas les annonces maintenant, hein, c'est juste un petit rappel. Et les Assemblées Générales, c'est toujours une occasion d'avoir une vue d'ensemble de l'année passée, année écoulée, et de voir aussi ce qui nous attend pour l'année qui a déjà bien commencé et qui arrive. Alors, dans ce cadre-là, cette semaine, on a reçu, pour les membres en tout cas, un mail. Et moi, j'ai été particulièrement encouragé lorsque j'ai vu les différentes nouvelles de l'Église. Alors, l'année passée, on avait fait les nouvelles en direct pendant l'Assemblée Générale. Cette année, pour gagner un petit peu de temps, un mail a été envoyé pour que chacun puisse voir les nouvelles et les sujets de reconnaissance, mais aussi les sujets de prière pour chaque activité. En fait, quand on baigne dedans, et quand on est 100%, enfin 100%, manière de parler, mais quand on est dans les activités de l'Église, et qu'on y est impliqué, on se rend un peu moins compte de tout ce qui se fait dans notre communauté. Et parfois, le fait de prendre un peu de recul et d'avoir des petits comptes rendus comme ça de ces activités donne une toute autre perspective de la vie d'Église. Alors, sans être totalement exhaustif, je peux par exemple citer comme activité les petits déjeuners entre femmes le samedi une fois par mois, les rencontres entre femmes. Je n'ai plus la périodicité, mais je crois que c'est une fois par trimestre, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Les rencontres Harmonie aussi, je n'ai pas la périodicité non plus, mais c'est peut-être une fois par trimestre, une fois tous les deux mois, une fois par mois, je ne sais plus. Mais enfin bref, il y a le groupe des petits flambeaux, une fois toutes les deux semaines à peu près. Il y a l'atelier couture, il y a le service d'entraide, il y a les groupes de maison en semaine, toutes les semaines, hormis les vacances. Il y a les rencontres intercollégiens. Et il y a les services du dimanche. Littéralement, hein, sans connotation négative, comme quand on dit le sportif du dimanche, mais les services du jour du dimanche. On peut y inclure, par exemple, l'accueil, l'installation de la salle, la louange, l'école du dimanche, la sono, la projection, les préparations diverses, et parfois, à la fin, le nettoyage, surtout quand il y a les agapes. Bref, c'est tout un écosystème qui vit tout au long des semaines, des mois, des années, et tout ça pour la gloire de Dieu et pour s'enrichir mutuellement dans nos relations et dans l'amour fraternel. Alors moi, en recevant ces nouvelles, j'ai été particulièrement émerveillé. Alors, je m'émerveille pour un rien, hein, parfois. Et là, j'étais émerveillé par un mail, un PDF inscrit, mis sur mon écran, envoyé par mail, c'est pour vous dire. Alors, pour ceux qui fréquentent l'Église depuis plus de deux ans et demi, je dirais, je vous invite juste à faire un bref retour en arrière. Est-ce que vous vous rendez compte que plus de la moitié des activités que j'ai citées, et j'en ai oublié, bien sûr, plus de la moitié de ces activités n'existaient pas, encore il y a deux ans et demi. Alors merci Seigneur pour ce qu'il nous permet de faire aujourd'hui et pour les moyens qu'il nous accorde pour cela. Alors voilà, quelques mots d'introduction pour la réflexion que je vous propose aujourd'hui et qui est la suite de notre courte série sur le Saint-Esprit. Alors, après avoir vu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, après avoir vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la conversion, nous allons voir aujourd'hui le Saint-Esprit à l'œuvre pour équiper l'Église. Alors, pour ça, je vous invite à lire un texte. Nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Je vais essayer de faire défiler, je pense que ça va marcher, je vais lire sur l'écran. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les attribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Petit torticolis. Alors, il y a dans ce texte une question qui est épineuse, une question difficile, une question sensible, qui a créé et qui continue de créer des divergences d'opinion. Les différentes sensibilités du monde évangélique interprètent différemment la question des dons spirituels. Alors, ces questions ne sont toujours pas tranchées. Et je vous rassure, quitte peut-être à vous décevoir, que je ne vais pas régler en un quart d'heure ce que les théologiens ne sont pas arrivés à régler en plusieurs décennies ou même siècles. Néanmoins, je pense que à travers ce texte, nous pouvons trouver des encouragements pour tous, pour nous, chrétiens du monde occidental du XXIe siècle. Je vais donc volontairement survoler les questions à débat et me focaliser plus sur focaliser notre attention et tirer des enseignements applicables pour tous sur certains points. Je vous propose d'aborder donc ce texte et ce thème des dons spirituels en deux parties assez simplifiées. Premièrement, l'origine des dons spirituels, et ensuite l'utilité et la finalité de ces dons. Alors, avant d'aborder tout ça, je vous propose quelques éléments de contexte, puisque ce texte parle à ses premiers lecteurs. Tout d'abord, Paul, ici, écrit à l'église de Corinthe, et Paul a eu des nouvelles de cette église, et ces nouvelles ne le réjouissent pas vraiment. L'église de Corinthe est vraisemblablement assez diversifiée par les origines de ses membres, et nous pourrions tout à fait nous identifier à cette église par nos différentes origines géographiques, origines ethniques, ou nos origines sociales, par exemple. En fait, les membres de cette église ont formé des petits groupes ou des petits clans où chacun semble se considérer comme meilleur que l'autre, et tout ça dans un esprit de désordre et de division. Tel groupe se réclame de tel courant, mené par un tel, et qui serait supérieur à tel autre pour telle et telle raison. Alors merci Seigneur, je pense que ce n'est pas le cas de notre Église aujourd'hui, mais prions pour que nous soyons tous vigilants vis-à-vis de tels comportements, de telles divisions et esprits de groupe, de clan. Alors sur tout ça, Paul va parler d'unité dans la diversité afin de ramener les Corinthiens à la raison première de leur service et de leur existence. Il va leur parler des dons spirituels dans ce chapitre et leur rappeler quelle en est l'origine et quelle en est finalement le but, la finalité. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'un don spirituel finalement ? Alors lorsqu'on parle de don spirituel, je ne sais pas vous, mais moi je pense tout de suite souvent à une chose en particulier, c'est le don du parler en langue. Parce que ça paraît un peu plus spectaculaire, peut-être plus surnaturel, et l'être humain aime ce qui sort de l'ordinaire et qui est sensationnel. Ça attise notre curiosité. Alors je viens d'un milieu évangélique non charismatique, donc ce don spirituel m'a quelque part toujours fait un peu peur et ça m'a dérangé, parfois, souvent peut-être à tort. Mais savons-nous qu'il y a d'innombrables dons spirituels ? Alors Paul ici n'est pas exhaustif. Hormis les dons qu'il a cités ici, d'autres passages parlent, par exemple, d'un don d'hospitalité, d'un don du service, d'un don du mariage, à contrario, d'un don du célibat, du don d'intercession, du don d'encouragement, du don d'enseignement, du don de libéralité, etc., etc., etc. En fait, on pourrait dresser une liste très très longue, mais pour faire court, on pourrait définir le don spirituel, comme une aptitude générale ou particulière d'un chrétien, une aptitude vivifiée par le Saint-Esprit et une aptitude mise au service de l'Église. Alors concernant l'origine de ces dons, comme son nom l'indique, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Revoyons le verset 4 qui dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ». Le verset 11 aussi qui nous dit « Toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut ». Tout cela nous rappelle la toute souveraineté de Dieu dans ce qu'il fait. Le Saint-Esprit a été envoyé pour équiper l'Église selon la seule volonté souveraine de Dieu. En disant ça, ça enlève donc tout caractère méritoire du don spirituel. Mon niveau de foi, ma maturité dans la foi, ne déterminera jamais le don que j'ai reçu. Et ce don, je le reçois par pure grâce. Alors, en disant ça, est-ce que moi qui suis un simple chrétien sans histoire, qui côtoie d'autres chrétiens, eux aussi sans histoire, je pense, et qui vit une vie simple, sans rien d'extraordinaire, est-ce que moi aussi j'ai reçu des dons spirituels? Alors, d'après ma compréhension aujourd'hui de la parole de Dieu, la réponse est oui. Lorsque tu places ta confiance dans le Seigneur, lorsque tu as fait le pas d'abandonner ta vie à Christ, tu as reçu des dons. Ils ne sont peut-être pas spectaculairement visibles, et c'est majoritairement le cas, mais tu as des dons. Alors c'est peut-être une banalité, cette affirmation est peut-être une banalité pour certains, et un scoop pour les autres. Si aujourd'hui tu as l'impression de ne servir à rien dans l'Église, parce que tu n'as pas de dons, peut-être qu'il te faut un peu d'aide pour les déceler. Les anciens sont là pour ça. Tout le monde n'a pas eu de don extraordinaire ou un peu surnaturel, mais un don spirituel peut tout simplement être celui de l'aide pratique, par exemple, lorsqu'il y a des besoins. Et ça a été mis en pratique dans l'Église lors des déménagements, lors des besoins de repas, les besoins de matériel. Ça peut être tout simple. Alors je vais faire juste une courte parenthèse sur les dons considérés comme un peu surnaturels, à savoir la guérison, les miracles, la prophétie et le parler en langue. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour faire simple, il peut y avoir en fait trois courants d'interprétation et de pensée dans le monde évangélique concernant ces cas. Il y a premièrement ceux qui pensent que ces dons ont cessé lorsque les apôtres, donc ceux qui ont côtoyé le Christ, parce que les apôtres et leurs proches ont disparu, sont décédés. On appelle ce courant le cessationnisme, de la cessation. Il y a ensuite ceux qui pensent que ces dons sont toujours présents de nos jours et qu'ils seront présents jusqu'au retour de Christ. Et enfin, il y a ceux qui, dans une attitude un peu « suisse », entre guillemets, ne se prononce pas, et qui sans vouloir offenser les Suisses, bon, il y en a parmi nous, et on les apprécie. Donc il y a ceux qui ne se prononcent pas et qui préfèrent ne pas avoir de certitude sur la question. Alors personnellement, j'aurais tendance à adopter la troisième position pour la simple et bonne raison que je reconnais la souveraineté totale de Dieu sur cette question, et que, tout simplement, je ne peux pas prétendre avoir assez de connaissances pour trancher de manière très ferme là-dessus. Dieu peut guérir de manière inexpliquée. Et j'ai été témoin de cela dans mon entourage plus ou moins proche. Il peut donner une parole très à propos pour quelqu'un, en particulier, alors, sans pour autant qu'il faille en faire une généralité, et qu'il faille absolument rechercher cet aspect spectaculaire dans ses dons. La guérison, le miracle ou la prophétie sont opérés par Dieu seul. Comme nous le rappelle Paul au verset 6 de notre passage, il y a diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Dans tous les cas, personne ne pourra dire qu'il sera à l'origine de la guérison, à l'origine du miracle, ou à l'origine de la prophétie. D'un point de vue un peu différent, puisque ces questions sont toujours très, très sujettes à débat, on pourrait envisager certains de ces dons particuliers de la manière suivante, qui est un peu différente. Nous pouvons tout à fait intercéder pour le rétablissement de quelqu'un qui souffre physiquement, et Dieu opérera ensuite, la guérison, c'est lui qui opérera, selon sa volonté et en son temps. Nous avons en notre possession la Bible, la parole de Dieu, pour annoncer l'Évangile et en cela aussi parler du retour certain de Christ. Le retour certain de Christ n'est pas encore là. Annoncer son retour, c'est comme une parole de prophétie. Une parole de prophétie, ce n'est pas quelque chose qui va rajouter quelque chose à la parole de Dieu. On ne peut rien rajouter à la parole de Dieu, ni en retrancher quelque chose. Mais la parole de Dieu est là pour nous aider, et elle est là aussi pour être annoncée. Il y a des choses qui sont déjà passées, puisque nous nous situons après la résurrection, mais il y a des choses à venir, en parlant du retour de Christ et des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Nous pouvons prier pour que Dieu nous sorte d'une situation difficile pour laquelle il semblerait que toute issue rationnelle n'est peut-être plus envisageable. En cela, nous ne pouvons plus qu'espérer une seule chose, qu'un miracle survienne de la part de Dieu. Dans tous les cas, personne ne pourra ordonner à Dieu de faire quoi que ce soit. Personne ne pourra avoir de parole qui se substituerait ou s'ajouterait à celle de Dieu, la parole de Dieu. Personne ne pourra se substituer à Dieu pour opérer telle ou telle chose ici-bas. Paul nous le dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Le même Dieu qui accomplit tout en tous. Ce verset nous indique non seulement l'origine de ces dons, mais aussi sa finalité, son but, qui est en fait le service. Alors, comme nous l'avons vu, les dons spirituels peuvent être de toutes formes. Alors, je vous invite à relire les versets 14 à 21 de notre passage. Voilà. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Les dons que nous recevons, les dons spirituels, ont une finalité qu'on peut appeler verticale et une finalité horizontale. Alors je m'explique, ce n'est pas très difficile. Les dons spirituels nous sont donnés premièrement pour rendre gloire à Dieu et pour servir Christ. Alors il est exclu ici toute gloire personnelle et tout orgueil. Par exemple, je ne suis pas un excellent guitariste ou un très bon chef flambeau pour briller dans l'Église et avoir un statut plus élevé. Non. J'ai ces dons par la grâce de Dieu et je les ai pour lui rendre gloire et pour témoigner de sa bonté et de sa fidélité. Voilà la finalité verticale entre nous et Dieu. Concernant la finalité horizontale, elle concerne nos relations les uns avec les autres. Mes dons servent à affermir la foi de mes frères et sœurs. Nos dons nous sont donnés pour nous aider à servir les autres et sont des outils à utiliser à cette fin. Fini ici aussi l'esprit de rivalité ou de compétition. Et je ne vais pas, par exemple, à la fin du culte, dire aux musiciens bah, « heureusement que j'étais là pour gérer la sono, parce que sinon, vos instruments, ils auraient été inaudibles. » Non, je ne vais pas dire non plus à David qui gère aussi la sono avec moi, ou à Jonathan qui fait la projection aussi quelquefois. Je ne vais pas leur dire qu'il n'y a pas photo, que je gère mieux la sono et la projection qu'eux. Non. Même si c'était vrai, ça ne l'est pas. non, ce n'est pas la finalité. Alors, je vais prononcer une phrase un peu répétitive, mais elle reflète bien la pensée de Paul ici concernant ses dons. Les dons nous sont donnés pour être donnés. Les dons nous sont donnés pour être donnés. Alors, il y a toutes sortes de dons, et Paul ici prend l'analogie avec le corps humain. Il y a le pied, la main, l'œil, le nez et l'oreille. Alors, je ne vous apprends rien, il y a bien d'autres organes dans le corps humain, bien sûr. Si vous avez uniquement un pied, une main, un œil, un nez et une oreille, que Dieu vous bénisse et vous comble de ses bienfaits, mais vous serez une preuve encore plus flagrante du miracle de la vie. Enfin, blague à part, je pense que cette analogie avec le corps humain est très bien faite. Je reviens ici à mon introduction lorsque je parlais des activités de l'Église. Derrière toutes ces activités que j'ai énumérées, on ne s'imagine pas les petites mains qui agissent, on ne s'imagine pas toutes les réunions qui s'organisent, on ne s'imagine pas non plus les actions qui sont faites pour que tout puisse marcher convenablement. Tous ces différents dons mis en action forment, bout à bout, l'œuvre que nous voyons et dont nous jouissons chaque année. De manière un peu plus illustrative, par exemple, si plus personne ne nettoyait la salle après les repas fraternels ou après les ateliers de Noël, je pense que l'AMAP, donc l'association propriétaire des lieux, ne serait pas contente. Si demain, tout le monde devenait chef flambeau, c'est-à-dire à peu près une cinquantaine d'adultes, je pense que Mike en perdrait la tête. Si tout le monde s'occupait de l'accueil le dimanche matin, il n'y aurait plus personne à accueillir. La sono ne servirait à rien si personne ne parle au micro et qu'il n'y a aucun musicien aussi, par exemple. Alors je fais exprès de raisonner un peu par l'absurde pour démontrer que chacun a sa place, peut avoir sa place, et chacun peut agir selon ses dons et ses capacités dans l'Église, et tout ça dans un esprit d'harmonie et d'interdépendance. Paul nous le rappelle lorsqu'il dit « S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ?» Il va rajouter aussi un peu plus loin des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions qui n'amènent aucune réponse, ou dont la réponse est toute trouvée, toute évidente. À la fin du chapitre, il dira « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? » Sous-entendu, la réponse à ces questions, non. L'œil a besoin de la main pour agir. Le pied a besoin de l'œil pour avancer. Les poumons ont besoin du nez pour se gonfler d'air. De la même manière, nous avons besoin les uns des autres des dons spécifiques que nous avons reçus. Comme d'ailleurs Pierre nous le dira dans sa première épître au chapitre 4 et verset 10, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Je vais faire une dernière remarque. Dieu nous a aussi donné, j'espère, du bon sens pour agir. Je me souviens d'une illustration qu'un prédicateur avait fait pendant son message. Si un jour, un frère dans l'Église qui, dans le civil, entre guillemets, est peintre en bâtiment, si un jour il décide qu'il serait préférable que tout un mur de l'Église soit repeint en rose fuchsia et qui vient un jour de semaine le faire sans concertation avec qui que ce soit, il aura beau avoir une bonne volonté et une sincérité sans faille, ce n'est pas pour autant que ce qu'il fait est dans l'intérêt commun. D'autre part, par exemple, si un dimanche matin, sur un coup de tête, je décide que ce sera moi qui serai à la louange, alors que je n'ai aucune notion d'un quelconque instrument de musique, je pense que tout le monde passerait une matinée un peu horrible. Pour continuer sur l'analogie du corps, Paul ne nous indique pas dans le passage qu'un œil peut devenir une main, qu'un pied peut faire tout ce qu'il veut, en toute indépendance. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin des dons de mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs ont peut-être aussi besoin des miens. Alors pour conclure, chers amis, sachons qu'en tant que chrétiens, nous avons reçu des dons. Nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu et pour le service des autres. Ce sont deux indicateurs indispensables qui nous permettront de distinguer nos réelles motivations dans ce que nous faisons. Ces dons ne dépendent ni de notre niveau de maturité dans la foi, ni de notre statut, entre guillemets, dans l'Église, ni de notre piété apparente. Ils viennent du Saint-Esprit, ils sont utilisés pour servir Christ, ils sont utilisés pour servir l'Église, et les actes qui en découlent sont accomplis par Dieu le Père. Alors sachons distinguer nos dons, demandons peut-être au Seigneur de nous guider dans cela, ou peut-être de mettre quelqu'un sur notre chemin pour nous aider. Mettons-les au service de l'Église. Alors comme je l'ai dit en introduction, nous avons déjà de nombreuses activités dans lesquelles nous pouvons nous investir. Il y en aura d'autres, Dieu voulant, et ça se multipliera encore à l'avenir, selon la volonté de Dieu. Mais laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous pour le service de Christ et pour la gloire de Dieu le Père. Amen.